Je réponds tout de suite aux questions posées, et puis après nous allons avancer dans cette recherche sur l'être en acte. À la dernière question posée hier, sur le critère de discernement qui permette de ne pas confondre la saisie du principe avec notre manière de saisir, vous avez répondu. Il n'y a pas d'autre critère que le critère intérieur de l'intelligence qui soit l'itinéraire parcouru et son objet trouvé. Cela suffit. L'intelligence est souveraine. Tout à fait. Et le principe aussi. Donc on est en train de deux souverains qui se regardent. L'intelligence qui saisit l'acte, l'intelligence en saisit l'acte, sait qu'elle saisit l'acte. Enfin, c'est ça la très grosse difficulté, que voulez-vous. Ça. Si la métaphysique existe, la métaphysique est souveraine. Rien au-dessus de la métaphysique. Et la saisie de l'acte est quelque chose de ce qu'il y a de plus fondamental dans toute la métaphysique. Donc, il ne peut pas y avoir de critères en dehors de ça. Ça ne peut pas être autrement. On va voir. Mais une telle réponse ne ressemble-t-elle pas en définitive à celle de tous les idéalistes pour lesquels le critère de l'expérience... Ils n'en cherchent pas, les idéalistes, c'est ça l'avantage. Parce que les idéalistes ne parlent pas de critères, tandis que je parle de critères d'un principe. C'est là toute la différence. Le principe est objectif. Il est réel. Tandis que pour les idéalistes, il n'y a pas de critères. C'est le processus même de l'intelligence qui est donné. Je n'ai jamais dit que c'était le processus de l'intelligence qui était le critère. Le critère, c'est la saisie même de l'acte. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, évidemment, je comprends très bien. Vu de l'extérieur, vous allez dire, vous faites la même chose. On va essayer de voir. Mais une telle réponse ressemble-t-elle pas en définitive à celle de tous les idéalistes, pour lesquels le critère de l'expérience interne suffit pour garantir à eux-mêmes et aux autres le réalisme de leur intuition? Oui, le critère, c'est la vie même de l'intelligence. Ça, tout à fait d'accord pour les idéalistes. Nous disions, au contraire, que le critère n'est pas la vie de l'intelligence, mais ce que l'intelligence saisit. Et là, je fais le discernement entre les deux. Pour eux, non pour nous, n'y a-t-il pas une défense meilleure de la valeur de l'induction et de la philosophie réaliste? Une défense, je dirais, c'est toujours l'expérience auquel on revient. Fondamentalement, c'est l'expérience. Ce que ne fait pas l'idéalisme. Donc l'induction revient à l'expérience. Je constate la diversité des états, ce qu'on disait hier. Donc nous constatons cela. Donc l'expérience me donne cela. Et l'induction elle-même, qui est l'intelligence sous le point de vue de l'interrogation, qui veut dépasser l'aspect descriptif pour saisir ce qu'il y a au cœur même de la réalité, cette démarche inductive est la démarche même de l'intelligence qui saisit sa proie. Et le critère, c'est la saisie elle-même de l'acte. C'est pas la démarche de l'intelligence. Donc l'induction ne se légitime pas par l'induction. L'induction se légitime par les deux extrêmes de l'induction, le point de départ, l'expérience, et la saisie du principe au terme. Donc vous voyez, c'est là la différence avec le point de vue idéaliste. C'est que dans l'idéalisme, c'est le processus même de l'intelligence qui s'impose comme absolu. Et il n'y a rien au-delà de ce processus de l'intelligence. Et ce processus même de l'intelligence varie suivant les différents moments. C'est pour ça qu'on pourra dire vérité d'un côté, vérité de l'autre. Vous voyez ? Tout dépend du moment de votre démarche dialectique. Alors ça, c'est très vrai. Il y a un processus comme ça, différent, qui n'a pas d'autre critère que le critère interne. Dans une perspective de philosophie réaliste, dans laquelle nous plaçons délibérément pour éviter les a priori. Le point de départ, c'est l'expérience qui n'est pas un a priori. Je ne crois pas que c'est un a priori de dire que j'ai l'expérience de dormir et de me réveiller tous les jours. Ce n'est pas un a priori, c'est une constatation d'un fait qui est ma vie. Je constate, hein. Je suis capable de contempler, je contemple. Je suis capable de réaliser telle chose, et ainsi de suite. Hein. Tout ce que nous disons comme point de départ, l'expérience. Bon, ça, ce n'est pas un a priori. Et c'est au-delà du processus même de l'intelligence. C'est le point de départ. Et quand l'intelligence, poussée par l'interrogation, c'est l'épée de Damoclès sur l'intelligence, elle pousse pour exiger de l'intelligence d'aller plus loin. L'intelligence est poussée par l'interrogation pour aller le plus loin possible. Qu'est-ce que c'est que l'être et qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être? Qu'est-ce qui finalise l'être, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc je suis interrogé, je suis poussé par là. Et pour mieux saisir cela, je saisis toujours l'état d'imperfection. Puisque pour moi, selon mon conditionnement, je saisis l'état de perfection en fonction de l'état d'imperfection. C'est en saisissant le gland, en regardant le chêne et en regardant le gland que je comprends en effet que le chêne est la réalisation parfaite du gland. Je ne pouvais pas le dire autrement. Dans ma constatation, je vais toujours d'un état d'imperfection à un état de perfection. Donc, c'est cela que je regarde. Mais je dépasse cette comparaison pour essayer de saisir ce qu'il y a de premier dans cette comparaison. Au-delà de la vie, au-delà des différentes étapes de l'esprit, saisir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre ultime, dans l'ordre de la perfection. Et là, je saisis l'être en acte et je le saisis nécessairement comme un principe, ce que je vous disais hier. Et alors, cette saisie, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est pas commode de la justifier, mais si je voulais justifier un principe, qu'est-ce que je ferais ? Je justifierai un principe par un autre principe. Si l'être est ce qu'il y a d'ultime dans mon expérience, jugement d'existence, si la saisie de l'acte est d'ultime dans le point de vue de l'induction, je ne peux donc pas justifier la saisie de l'acte par quelque chose d'autre. Je peux dire ça fait du bien à mon cœur. Vous voyez ? Alors ça, c'est une justification tout à fait subjective et affective. Ce n'est pas une justification métaphysique. Mais vous voyez ce qui est très curieux, c'est que la saisie de l'acte permet d'une certaine manière de justifier la lousia. Alors, je pourrais dire que la saisie dernière de l'être premier pourrait peut-être me donner une justification de l'être en acte. Mais vous voyez que là, il y aurait peut-être pétition de principe, puisque c'est grâce à l'acte que je saisis l'être premier. Mais cependant, c'est aussi là où je saisis la fécondité de cette saisie qui me permet de saisir l'être premier. Alors, c'est une justification extrinsèque. Ce n'est pas une justification propre. Mais il n'y a pas de justification propre des principes. Ça, on le verra en critique. Ça, je crois que c'est le propre de l'intelligence. Elle est souveraine. Principe d'autonomie dans ma vie. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord, c'est terrible dans une certaine perspective, parce qu'alors vous dites, bon, alors, vous saisissez ça, moi à côté, je ne le saisis pas. Donc, il y a un privilège extraordinaire. Je dis non, c'est l'intelligence. Soyez intelligent, petit à petit, vous trouverez. Tout le monde, toute intelligence peut trouver ça. Toute intelligence peut trouver ça. Et ce n'est pas du tout quelque chose de, si vous voulez, de particulièrement génial. C'est quelque chose de simple. Et toute intelligence peut la saisir. C'est pas du tout un... Je ne dirais pas qu'il faut un daimon particulier, n'est-ce pas? Un petit démon particulier qui est là et qui est donné pour avoir une surintelligence pour saisir. Non. Vous voyez, c'est la différence avec Platon. Pour Platon, la réminiscence, le daimon. Il faut quelque chose qui me fasse sortir de l'homme commun. Il faut quelque chose qui me fasse sortir de l'homme commun pour connaître les idées, pour connaître l'amour. Pour Aristote, pas. C'est l'homme conventionnel qui a de la peine à découvrir la métaphysique. Mais l'homme qui serait simple découvrirait spontanément la métaphysique. Mais l'homme conventionnel, alors là je comprends. Il a des badigeons de convention, de vernis. Alors parce qu'il a ces badigeons de vernis, il faut les enlever. Mais si vous retrouvez la simplicité de l'intelligence, vous le trouvez tout de suite. Parce que l'expérience de dormir et d'être éveillé, la faisant tous les jours. Mais il faut y réfléchir. Il faut réfléchir que là, il y a deux états particuliers de l'être. Et ces deux états particuliers de l'être exigent de poser, non pas un surêtre, mais l'être en acte. Qui, lui, est premier. Principe. Vous voyez ? Alors, vous voyez comment je peux répondre. Mais je comprends très bien. Je vous affirme. Ces questions-là, c'est important, c'est pour ça que c'est bon de les souligner. C'est très bien de les souligner. Il faut faire sortir à l'égard de ça tout ce que nous avons de difficulté devant ça. Et je comprends très bien que c'est difficile. C'est difficile parce que nous n'avons plus la naïveté suffisante de l'intelligence. Au fond, nous ne croyons plus assez. Puisque avant de saisir, il faut croire. Nous ne croyons plus assez en la puissance de l'intelligence. Comme intelligence, pas la raison, hein, faisons attention. Pas la raison, mais l'intelligence. L'intelligence est capable d'avoir cette lecture en profondeur de la réalité et de saisir ce qu'est l'acte. Alors elle le saisit toujours d'un point de vue analogique, hein, faisons attention. Donc c'est jamais une saisie d'une évidence absolue. Par moments, c'est très évident. Et puis 10 minutes après, c'est plus évident. C'est très ennuyeux. Et puis 10 minutes après, c'est évident. Vous voyez, c'est du discontinu, l'analogie. Faut pas l'oublier. C'est du discontinu. Par moment, tiens, mais oui, c'est ça. C'est idiot, j'aurais dû comprendre ça tout de suite. C'est pour ça qu'au moment des examens, il y a toujours l'inhibition et on ne comprend plus rien du tout. Et c'est très vrai. Les examens, on peut coller n'importe qui au point de vue métaphysique. Ça, c'est très très facile. Parce que c'est la métaphysique est quelque chose que il faut être détendu, l'intelligence doit être détendue et tendue métaphysiquement, non pas du côté des examens, pour découvrir, vous voyez. Il y a la réceptivité, c'est ça qui est très beau dans l'interrogation. L'interrogation nous rend réceptif et l'interrogation tend. Alors vous avez la réceptivité et la tension. Et cette réceptivité, cette tension permet à l'intelligence de saisir. Parce qu'on ne saisit, vous voyez, le gibier ne se manifeste que s'il y a quelqu'un pour le recevoir. Et donc l'acte ne se manifeste que si l'intelligence est là, réceptive pour la recevoir. Alors, je crois que je ne peux pas dire plus. On le verra en critique. Parce que ça, c'est un gros problème de critique qui est posé là. Et c'est un problème très intéressant au point de vue critique. Bon, je prends l'autre question. Avons-nous une saisie de l'être en puissance indépendante d'une modalité? Sinon, n'est-il pas équivoque de parler de l'être en puissance? N'est-il pas plus juste de dire ce qui est en puissance? Ou, si l'être en acte est un, ce qui est en puissance est immédiatement multiple? N'oubliez pas, je pars de ce qui est, jugement d'existence. J'interroge au niveau de l'être et je saisis au niveau de l'être ce qu'est premier dans ce qui est. Mais au niveau de l'être, donc je peux parler de l'être en acte. Mais quand je dis l'être en acte, il n'existe que dans ce qui est en acte. Quand je dis l'être en puissance, J'ai tout à fait le droit, puisque je le saisis relativement à ce qui est en acte. Je le saisis toujours n'existant que dans ce qui est en, que dans ce qui est en puissance. Alors c'est un petit peu un équivoque par rapport à ce que représente l'intelligence capable de saisir le ti, esti, et l'intelligence qui saisit toujours le point de vue de l'existentiel. Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien, parce que c'est important. Le ceci est. Et puis l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Le ti esti sur l'être. Je vous ai dit que seule l'interrogation porte parfaitement sur l'être. Mais une fois que je pose l'interrogation, je saisis ce qu'il y a de premier dans l'être. Ce qu'il y a de premier dans l'être, c'est saisi à partir du ceci est, puisque je retourne à ceci est. Donc, quand je saisis ce qu'il y a de premier dans ceci est, dans la lumière de l'être, je saisis le principe. Donc, le principe n'est ni en prolongement de l'être, ni dans le prolongement du ceci est. Il est entre les deux, si j'ose dire. Seule l'intelligence saisit le principe. Tandis que quand je suis devant le jugement d'existence, ce jugement d'existence, c'est l'intelligence liée au sens qui touche la table. Ceci est. Mais le jugement d'existence comme tel relève de l'intelligence. Il ne relève pas des sens. Mais l'intelligence est liée au sens pour porter ce jugement d'existence. Quand l'intelligence interroge, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'intelligence, d'une certaine manière, comprenez bien, se sépare des sens. Elle se sépare du jugement de l'individu. Et elle pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Mais je ne peux pas répondre. Quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je ne peux pas répondre en restant au niveau de l'être. Ce n'est pas dans l'idée d'être que je découvre le principe. Mais ce serait trop commode. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être, substance, acte. Alors ce serait une lecture du principe à l'intérieur de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?». Qu'est-ce que c'est que l'être ? Forcément, j'ai un certain concept d'être pour poser « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et j'ai toujours dit que la signification du « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et la signification de ceci est la même. Tout simplement, la différence, c'est qu'on est ici un mode concret, ici un mode abstrait. Mais c'est la même signification. Pour saisir le principe, je reviens à la réalité existante, au ceci est, dans une nouvelle lumière qui est la lumière de l'être. Et la saisie du principe se fait donc à partir du ceci est, mais au-delà du ceci est, dans la lumière de l'être. C'est pour ça que je dis que c'est entre les deux. Si j'ose dire, c'est entre les deux, parce que c'est pas du tout dans le prolongement de l'interrogation de l'être comme tel. C'est l'interrogation par rapport à la réalité qui saisit en profondeur dans la réalité le principe. Le principe est saisi à l'intérieur même de ceci est, et non pas dans le prolongement de l'être. Je ne peux pas analyser l'être, d'abord parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas l'analyser. Vous voyez, c'est là l'erreur. Vous voyez, quand Maritain dit, c'est intéressant pour ceux qui... C'est intéressant de lire les sept leçons de l'être de Maritain. C'est intéressant pour comprendre certaines erreurs qu'on peut faire. Parce que Maritain dit clairement, très très clairement dans les sept leçons de l'être, que quand j'ai l'idée d'être, j'ai l'idée de la substance, l'idée de l'acte. Ça, je crois que c'est du Suarez. C'est la suprême injure au point de vue métaphysique, vous voyez, c'est du Suarez pur. C'est à l'intérieur de l'idée d'être, j'ai la saisie de la substance et la saisie de l'acte. Je ne crois pas du tout que c'est l'idée d'être qui me donne ça. L'idée d'être, elle est analogique Bon, c'est l'idée d'être. Je ne peux rien déduire de l'idée d'être. Je ne peux pas analyser l'idée d'être. Essayez d'analyser l'idée d'être, hein, votre scalpel intellectuel. Ça n'arrive pas, vous ne saisissez pas. Vous revenez au réel. Et c'est dans le réel, sous la lumière de l'être, que vous saisissez la substance, comme vous saisissez l'acte, qui est le principe. Alors, c'est le statut du principe. Le principe, il a un mode abstrait, mais il s'enracine dans le concret. C'est le propre du principe, un principe propre d'être. Il a un mode abstrait, donc il est lié à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et il s'enracine dans le concret parce qu'il me fait saisir en profondeur la réalité qui existe. Oui, oui.
Est-ce que la question que vous soulevez, c'est quand on saisit le principe dans l'induction, on le saisit comme quelque chose qui est un, qui est indivisible.
Oui, absolument.
Mais la réalité en substance, elle...
Elle est
toujours liée à la modalité.
C'est évident. Donc, oui, mais c'est quand même pas la réalité existante, vous voyez. C'est un mode au niveau de l'être, mais pas au niveau du principe. C'est un mode à ce niveau-là. C'est ça qui est terrible dans le langage. Hein. C'est que le langage ne respecte pas les niveaux. Mais c'est à ce niveau-là que je le saisis, comme quelque chose de second. C'est pas à ce niveau-ci. Vous avez trois niveaux. Hein. Vous avez le niveau du plancher des vaches. Mais très beau plancher, hein. Ceci est, ça a été raboté, déjà pas mal, hein. Mais c'est quand même le plancher des vaches, hein. Ceci existe. Vous avez, là je ne sais pas quoi, quand vous posez qu'est-ce que c'est que l'être, vous êtes dans une altitude très grande. Et puis vous avez ce niveau-ci, trois niveaux différents. Et c'est vrai, c'est trois niveaux différents, je ne peux pas les mettre au même niveau. Et puis alors, en fonction de l'acte, je saisis l'être en puissance. Alors, je ne dis pas que l'être en puissance est à ce niveau du ceci, donc au niveau 1. Je dirais que l'être en puissance est tout entier relatif à l'être en acte. Il est donc au même niveau. Vous voyez ? Mais alors, je dis que c'est un mode, une modalité. Pourquoi ? Parce que c'est l'être second, c'est pas l'être premier. Non, toujours. Mais je n'explicite pas la multiplicité. C'est pour ça que je disais hier que l'être en puissance implique toujours du plus et du moins. Vous voyez ? Il implique toujours du plus et du moins, tandis que l'être en acte ne présuppose pas. C'est pour ça que de dire l'être est un mode, je veux dire l'acte est un mode, c'est impossible, puisque l'acte est premier. Vous voyez ? Et quand je saisis un état d'imperfection et un état de perfection, je ne saisis pas l'être en acte. Je ne saisis qu'un état d'imperfection et de perfection. Donc je suis au niveau, alors ici, du concret, et non plus à ce niveau-là. Les trois niveaux, il faut essayer d'arriver à saisir ces trois niveaux. Je crois qu'on peut les saisir. C'est important, c'est intéressant à saisir ces trois niveaux, vous voyez, parce que ça fait comprendre ce que c'est que l'induction. Je pars de la réalité existante, je m'élève très haut grâce à l'interrogation, je suis très haut dans l'interrogation, ce qui me permet de saisir dans l'obscurité, dans l'opacité de l'expérience, le principe. Il émerge. C'est une lecture extraordinaire, l'induction. Une fois qu'on a compris ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de faire cette lecture, vous voyez ? Comme si on pouvait regarder l'océan. C'est vrai, on a tous aimé ça quand on est en avion et puis qu'on regarde les profondeurs. C'est intéressant, c'est beau. C'est très, très beau. Alors faites ça au point de vue de l'intelligence. Alors vous aimerez d'aller en avion, c'est l'avantage, c'est que ça ne coûte pas très cher. Vous montez très haut, pas besoin d'essence, tout de suite, simplement un petit effort d'être éveillé. Alors vous vous levez très haut et vous interrogez, puis vous regardez. Vous regardez les autres. Ça, c'est pas de l'indiscrétion. On peut regarder le voisin dans une lumière métaphysique et vous le voyez beaucoup mieux. Vous voyez sa substance, vous voyez son être en acte, et vous voyez toutes les capacités qu'il a de dérailler. Parce que la potentialité, c'est toutes les capacités de déraillement, n'est-ce pas ? Parce que c'est l'état de multiplicité. Vous voyez bien ça, donc. La question était posée, je relis la question. avons-nous une saisie de l'être en puissance indépendante d'une modalité? Non. Mais je dirais d'un mode, pour être plus précis, d'un mode. C'est-à-dire toujours relatif à l'être en acte. Je ne peux pas saisir l'être en puissance sans qu'il soit relatif à l'être en puissance, en acte. Donc toujours comme un mode. Puisque l'être en acte est premier et que l'autre est relatif. Sinon, n'est-ce pas équivoque de parler de l'être en puissance? Non. N'est-il pas plus juste de dire que ce qui est en puissance? Non, parce qu'on reviendrait à ça. Alors que ce n'est pas relatif à ce qui est, c'est relatif à l'être en acte. Oui, c'est au troisième niveau. Mais je comprends très bien que c'est ce niveau-ci est plus proche de celui-là que ceci proche de celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Vous avez tous compris, n'est-ce pas? Le niveau troisième, hein, dans le niveau 3, vous avez deux. Vous avez quelque chose de relatif, puisque vous avez l'être en acte et l'être en puissance. Alors, je dis, l'être en puissance est plus proche du niveau du plancher des vaches, ceci est, que l'être en acte par rapport à ceci qui est. Vous voyez? Et c'est ça qui faisait que vous confondiez. Parce que de fait, il y a une proximité plus grande. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a une proximité plus grande. Et ce n'est pas le même niveau. Parce qu'il est tout entier relatif à l'être en acte. Alors, peut-on dire que la saisie de l'être en acte, principe, fin, est permise d'abord par l'expérience d'une multiplicité de modalités de ce qui est en acte? Oui. Mais une modalité d'état de perfection et d'imperfection. Multiplicité à l'intérieur de laquelle je saisis quelque chose de commun, oui, au niveau de l'être. N'est-ce pas? C'est l'induction, je le prends au niveau du devenir, au niveau de l'opération biologique, vitale, au niveau de l'opération vitale, esprit, éthique et factuelle. Donc tous les niveaux. Je peux même le prendre au niveau de la substance, parce que j'ai déjà découvert la substance. Donc je prends tous ces niveaux différents et je retrouve toujours deux niveaux, perfection et imperfection. L'expérience de la perfection et de l'imperfection. Donc, peut-on dire que la saisie de l'être en acte, principe et fin est prise d'abord par l'expérience, est prise de l'expérience d'une multiplicité de modalités de ce qui est en acte. Multiplicité à l'intérieur de laquelle je saisis quelque chose de commun, le point de vue de l'analogie, dans la diversité. Mais que l'expérience de la réalité en puissance et en acte, d'une manière séparée, m'aide à expliciter l'acte comme fin après l'avoir induit. Dépassement du conditionnement de l'expérience d'amour d'amitié où la fin est l'ami, la fin est saisie dans une relation. Je ne vois pas très bien. Je vais relire. Hein. Pour que vous compreniez tous bien l'objection. Il faut d'abord comprendre l'objection. Vous pouvez l'expliciter?
Est-ce que la saisie de ce qu'est l'acte n'est pas d'abord permise par l'analogie entre les divers états parfaits?
Oui.
Mais que l'état imparfait et l'état parfait me permettent de saisir l'ordre, une fois après que j'ai saisi, l'ordre de la parfaite.
C'est-à-dire que je saisis d'abord. Dans mon expérience, je saisis quand même un ordre, selon la vie courante. Celui qui dort et celui qui est éveillé. Bon. Et je saisis un ordre analogue à toutes ces expériences. Donc, il y a quelque chose de commun, c'est cette proportion qui est saisie à ces états différents.
Mais l'acte n'est pas encore
saisi. Ah non, non. L'acte est saisi au-delà de cette diversité. C'est justement ça. C'est l'induction qui me permet de saisir l'acte.
C'est-à-dire là, je laisse complètement tomber l'état.
Tout à fait, tout à fait. Je saisis l'acte en premier lieu, puis après je saisis immédiatement le point de vue d'empuisance. Il faut récupérer le reste.
Alors, ensuite,
c'est de la récupération, la puissance. Je saisis d'abord l'acte, puis je récupère les autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une nouvelle saisie. Il n'y a pas une seconde saisie. Il n'y a pas une seconde induction pour l'être en acte et être en puissance. Il y a quelque chose de très analogue avec la saisie de l'ousia et de la qualité. Oui, l'ousia me fait abandonner toutes les déterminations, je saisis la source de ces déterminations, puis je récupère. Et ce sont les déterminations secondes. Mais alors, ces déterminations secondes sont récupérées dans une nouvelle lumière, la lumière de l'ousia. Tous les états d'imperfection sont récupérées dans une nouvelle lumière, la lumière de l'être en acte.
Oui.
Qui sont récupérées dans la lumière de l'être en acte.
On est au niveau 1 ou au niveau 3 ?
Au niveau 3. Au niveau 3.
Donc c'est les modes.
Oui, ce sont les modes.
Donc,
tout l'être en puissance, n'est-ce pas, est saisi à partir de l'être en acte, et l'être en puissance récupère tous les états d'imperfection que je saisissais au numéro 1. Le niveau de l'expérience. Bon. C'est difficile l'induction, c'est pas commode. Ce n'est pas matière à examen. L'induction, c'est matière à une vile intelligence. On peut vous demander comment on induit, ça c'est sûr. Alors tout le monde peut comprendre à peu près les différents éléments. Mais on ne peut pas, c'est ça qui est très dommage. Il n'y a pas encore d'instrument qui permet de voir quand un étudiant se présente à la licence s'il a saisi l'acte. Or on ne devrait donner licence de métaphysique ici à Fribourg que quand on a saisi l'acte. Mais on ne peut pas savoir. C'est très curieux. Alors on s'en aperçoit au tournant. Parce que quand on a saisi l'acte, on saisit par le fait même d'être en puissance. Vous voyez, immédiatement. Et alors on saisit à ce moment-là les niveaux différents. On s'aperçoit très bien s'il y a des confusions qui se font. Et c'est au niveau des applications. Au niveau des applications, vous voyez tout de suite si l'être en acte a été saisi, distinct de l'être en puissance. Celui qui a saisi l'être en acte ne peut plus confondre l'être en puissance et l'être en acte. Ne peut plus. Et donc, il saisit. Alors, ça se fait progressivement, saisie analogique. Hein. J'ai mis beaucoup de temps pour saisir ça. Il faut croire du tout que... Quand on est étudiant, on saisit quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose. C'est déjà beaucoup. C'est la saisie analogique première. On voit qu'il y a quelque chose. Puis alors, ça met du temps. Avant d'arriver vraiment à saisir ce que ça représente, ce qu'Aristote nous livre au livre Theta. Parce que vous voyez, si je lis le livre Theta sans avoir saisi ce que c'est, je lirai le livre Theta. Je chercherai exactement à quel moment il y a induction, oui, je verrai bien, à peu près. Mais au fond, j'aurai de la peine, s'explique comment un Avicenne, si intelligent qu'il soit, qui a lu 50 fois la métaphysique, il s'en vante, hein. J'ai lu 50 fois la métaphysique. Au début, je disais que c'était idiot. Et puis après, petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de très intelligent. Eh bien, alors Avicenne, même Avicenne, ne saisit pas parfaitement l'être en acte. Parce qu'au fond, je crois qu'il n'est pas assez philosophe et il reste, comprenez bien, trop théologien. Pas commode, hein. Parce que le théologien, il faut bien comprendre, le théologien saisit tout dans la lumière de Dieu. C'est merveilleux. Enfin, il saisit tout dans la lumière de Dieu. Alors, saisissant tout dans la lumière de Dieu, Dieu, c'est pas l'acte, principe et fin. Dieu, c'est un être qui est acte pur. Donc, c'est un être qui dépasse tous les autres et qui est acte pur. Saisir tout dans la lumière de Dieu, je saisis les principes métaphysiques relatifs à Dieu. Vous voyez ? Et alors, à ce moment-là, je ne les saisis plus dans leur pureté métaphysique, mais je les saisis avec un état d'imperfection. C'est ça, au fond, c'est là la difficulté que nous avons. Et c'est là, vous voyez, comprenez bien, c'est pas du tout de dire que le regard théologique en soi empêche d'être métaphysicien. Ça, ce serait très faux de dire ça. Mais souvent, nous ne sommes pas assez lucides dans notre foi, donc nous ne sommes pas assez croyants. Je crois que c'est la différence entre Avicenne et saint Thomas. Je crois que la foi de saint Thomas va plus loin que celle d'Avicenne. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'on trouve dans Avicenne quelques petits passages que saint Thomas ne dirait pas, qui montrent bien que Avicenne, si grand qu'il soit, quand même, hein, n'est pas arrivé à une pureté absolue. qu'Avicenne est très conscient d'être le plus grand savant de son temps. Il le dit. Non, pas du tout. C'est pas ça qu'il cherche. Il cherche la vérité. Ça lui est égal si à quel degré il est. Ça lui est bien égal. Puis il serait très heureux que d'autres passeraient devant lui. Il serait très heureux. Parce qu'en fond, c'est ça qu'on doit chercher. C'est la recherche de la vérité. Avicenne, vous voyez, alors c'est là, on voit très bien qu'il y a un petit aspect particulier qui n'est pas la pureté, la limpidité absolue du regard de l'intelligence. Alors, quand la foi n'est pas suffisamment pure, la foi peut gêner le regard métaphysique. Quand la foi est absolument limpide et contemplative, elle ne peut pas gêner le regard métaphysique. Au contraire, elle l'exige. C'est ça qu'il faut saisir. Elle l'exige. Un vrai croyant contemplatif doit comprendre l'exigence d'une intelligence à l'état natif, c'est-à-dire d'une intelligence métaphysique. Oui. Et c'est ça. Et l'intelligence est à l'état natif quand elle saisit l'acte. Elle est dans l'état de la plus grande pureté qu'elle peut avoir naturellement. Oui. Alors ça explique, je crois, comment si facilement on revient à une métaphysique des états de l'être en acte et de l'être en puissance, à la manière des néoplatoniciens. Parce que c'est sûrement le néoplatonisme qui a empêché Avicenne de pouvoir aller jusqu'au bout de sa saisie de l'être en acte. Et je crois que chez les néoplatoniciens, ça c'est très net, c'est que l'acte n'est pas saisi comme fin, il est saisi comme un état. Un état, parce qu'il est saisi comme un effet. Vous voyez ? Alors, s'il est saisi comme un effet, il est saisi comme un état. Ça ne peut pas être autre. Il ne peut pas être saisi comme principe. Un principe n'est pas un effet. Vous voyez, c'est ça qui est terriblement difficile à saisir. Un principe comme tel n'est pas un effet. Dieu ne crée pas des principes. Dieu crée des réalités qui ont une structure interne et qui ont en elles quelque chose de premier. Dieu n'est pas créateur des principes. C'est extraordinaire. Créateur des principes. Il serait Dieu créateur d'un système. Il crée par amour des créatures. Il crée par amour des êtres qui subsistent. Des êtres qui existent en acte. Et nous redécouvrons dans ces êtres, nous redécouvrons quelque chose d'absolu, le point de vue de la substance et le point de vue de l'acte. Nous découvrons leur principe. Mais c'est l'intelligence qui découvre ça. Un principe comme tel n'existe pas d'une façon autonome. C'est l'intelligence qui découvre ce principe. C'est ça la très grosse difficulté que nous avons. Parce que nous, comme nous disons, nous chosifions très très vite les principes. Vous voyez, c'est un très mauvais mot, mais ça ne fait rien. Ça dit bien ce que c'est. On chosifie. C'est-à-dire qu'on réifie un principe. Et à la place de le saisir comme un principe, on le saisit tout de suite dans sa modalité. Et je comprends que si je regarde la métaphysique de l'acte de la puissance dans la lumière du Créateur, j'ai dit, mais c'est créé. Eh bien, je dois dire non. L'être en acte, comme tel, n'est pas créé. Il est concret, comme dirait saint Thomas. Il est créé avec la réalité existante, mais il n'est pas créé. Parce que s'il était créé, il serait relatif, il ne serait plus principe. Oui, c'est là où c'est très important de saisir que, de fait, il peut y avoir une métaphysique de la créature. Ce n'est pas impossible. La créature comme telle, comme créature, est contingente. Mais puisqu'elle est créée par Dieu dans sa sagesse, pour être un être réel, cet être réel implique en lui-même certains principes que l'intelligence peut saisir. Et c'est là où on voit toute la différence entre la position d'un réalisme philosophique et métaphysique et l'ontologisme. L'ontologisme reste au niveau de la créature relative à l'être premier. Alors, si c'est relatif à l'être premier, il n'y a plus de principe. C'est pour ça que Malebranche dira, il n'y a pas de cause. Il n'y a plus de cause, c'est impossible. Dieu ne peut pas créer des causes. Si Dieu créait des causes, il créerait quelque chose de rival de lui. Si Dieu créait des principes, Dieu créait des choses rivales de lui, puisqu'il serait autonome dans leurs principes. Or, Dieu crée des réalités qui impliquent des principes. Et le principe comme tel n'est pas créé. C'est l'intelligence qui le découvre. Alors, il est concret parce qu'il est dans une réalité créée. Et ça peut vous aider, ça, parce que ça se coule le panier dans tous les sens. N'est-ce pas ? Alors, ça aide à comprendre mieux les situations différentes dans lesquelles je peux regarder l'acte, et puis les erreurs dans lesquelles je peux regarder. Et puis, ça vous fait mieux comprendre la situation du théologien. Très curieux, un théologien qui se sert de la métaphysique. Vous comprenez ? Un théologien qui se sert de la métaphysique ne découvre pas les principes comme théologien. Il n'a pas à les découvrir. Il serait philosophe. Le principe, je le saisis à sa place exacte. Le théologien qui se sert d'une métaphysique, alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toujours la même question qu'on se pose. Surtout quand il s'agit de l'acte qui est le principe ultime. Et donc c'est là où la situation est la plus poussée. Puisque l'acte, ça me donne mon indépendance intellectuelle. Si vraiment c'est le principe ultime et dernier, c'est là où je saisis mon intelligence dans sa plus grande autonomie. Plus que dans la substance. Alors quand le théologien, en tant que théologien, croyant, regarde ce que c'est que l'acte et veut se servir de l'acte pour exprimer certains mystères, c'est-à-dire pour essayer de mieux comprendre le mystère de la création, pour mieux comprendre le mystère du Verbe incarné, pour mieux comprendre le mystère de la Très Sainte Trinité. Le théologien s'en sert non pas au sens strict comme un principe. On ne peut pas se servir d'un principe. C'est très curieux. On ne peut pas se servir d'un principe. Un principe, on le saisit. Mais on ne s'en sert pas. C'est absolument... Mais on use de ce principe, c'est-à-dire on use de cette métaphysique de l'acte de la puissance, dans une perspective de croyant, pour mieux expliquer le comment de certains aspects. Et alors, c'est quelque chose qui n'est plus au niveau du principe, qui est au niveau du mode. Parce que c'est relatif à l'acte premier. C'est relatif à Dieu. Je crois que c'est ça qui fait la difficulté. On comprend très bien que la théologie ne nous rend pas métaphysiciens, si on ne fait que de la théologie. On répète, si on est métaphysicien et qu'on fait de la théologie après, je crois qu'on peut avoir une théologie qui est plus vivante du côté de l'intelligence. Enfin, toujours les deux sources de la théologie. Toujours les deux sources. La mystique, c'est-à-dire la foi vivante, et la métaphysique. La philosophie. Les deux sources. Alors, si il y a une source tarie, la mystique, mais puis là encore moins, on ne peut pas faire d'examen, tu vois. Quand vous donnez un doctorat de théologie, est-ce qu'on a affaire à un mystique ou pas ? C'est dangereux, n'est-ce pas, de confier l'enseignement théologique à quelqu'un qui ne sait pas, que dont la source première est tarie. Alors, la source de la théologie, c'est quand même la mystique. Ça ne peut pas être autrement. C'est une foi vivante. Une foi qui commence. Et l'autre source, c'est la métaphysique. Ce sont les deux sources. S'il y a les deux sources vivantes, alors à ce moment-là, la théologie devient quelque chose de vivant. Elle n'est pas quelque chose d'appris, elle est quelque chose de vivant, et on fait de la théologie comme on respire. Parce qu'on respire par les deux poumons, et on respire par la foi vivante, et on respire par la métaphysique. Alors on fait de la théologie nécessairement comme on respire. Et on sent très bien quand la théologie s'applique toujours dans le milieu dans lequel on est. Si au fond on n'a pas la foi vivante et on n'a pas la métaphysique, alors vous comprenez qu'on est vite dans l'état de celui où ce n'est plus vivant, alors il répète. Et la répétition fausse toujours. C'est ce qui explique comment la scolastique a faussé la pensée de saint Thomas. Parce qu'on a répété. Saint Thomas représente quelque chose de très grand, un moment, mais on l'a répété. Et alors à ce moment-là, on fausse tout.